Champagnac, chronique du crime et de l'innocence, diablerie et magie. On publia à Paris en 1615 un livret intitulé « Histoire épouvantable de deux magiciens étranglés par le diable à Paris pendant la Semaine Sainte ». Ce qu'il y avait de certain dans ces histoires, c'est qu'au mois de mars 1615, deux hommes, nommés César et Ruggieri, qui se donnaient pour magiciens à Paris, moururent de mort violente à quelques jours l'un de l'autre. Il est à présumer que les auteurs de ces meurtres avaient quelque intérêt à les commettre, et peut-être furent-ils les premiers à faire circuler le bruit que ces deux malheureux avaient péri victimes du diable. Cette merveilleuse aventure n'eut pas de peine à s'emparer de la crédulité des esprits ignorants capables de croire à la magie. Le magicien César faisait, disait-on, tomber à sa volonté la grêle et le tonnerre, avait un esprit familier et un chien qui portait ses lettres et lui en rapportait les réponses. Il fit une image de cire ou volte pour faire mourir en langueur un gentilhomme dont il croyait avoir à se plaindre. Il composait des philtres pour que les jeunes gens puissent se faire aimer des jeunes filles. Il aimait, disait-il, au sabbat, et il se vantait d'y avoir obtenu des faveurs d'une grande dame de la cour. Ses vantries et ses promesses magiques le firent renfermer à la Bastille, où, suivant la croyance d'alors, le diable vint avec un grand bruit l'étrangler dans son lit le 11 mars 1615. Ce César faisait métier de montrer le diable aux dupes qui payaient pour le voir. Nos lecteurs apprendront sans doute avec plaisir comment cet imposteur s'y prenait pour faire voir le diable et sa cour aux gens crédules. Nous empruntons ces détails à M. Dulaure, qui les a tirés d'un auteur contemporain. Cet auteur fait parler ainsi César, auquel il donne le nom de Perditor. Oh, vous ne croirez pas combien il y a de jeunes courtisans et de jeunes sérapiens parisiens qui m'importunent de leur faire voir le diable. Voyant cela, je me suis avisé de la plus plaisante invention du monde pour gagner de l'argent à un quart de lieue de cette ville, vers Gentilly, je pense. Et j'ai trouvé une carrière fort profonde qui a de longues fosses à droite et à gauche. Et quand quelqu'un vient voir le diable, je l'amène au-dedans, mais avant d'y entrer, il faut qu'il me paye pour le moins 45 ou 50 pistoles, qu'il me jure de n'en parler jamais, qu'il me promette de n'avoir point de peur de n'invoquer ni les dieux ni les demi-dieux, ni de prononcer aucune sainte parole. Après cela, j'entre le premier dans la caverne, puis avant de passer outre, je fais des cercles, des fulminations, des invocations, et récite quelques discours composés de mots barbares, lesquels je n'ai pas plutôt prononcés, que le sot curieux et moi entendons remuer de grosses chaînes de fer et gronder de gros matins. Alors je lui demande s'il n'a point de peur. S'il me dit que oui, comme il y en a quelques-uns qui n'osent pas passer outre, je le ramène dehors et lui enfin passer ainsi son importune curiosité, je retiens pour moi l'argent qu'il m'a donné. Et s'il n'a point de peur, je n'avance plus en avant en marmottant quelques effroyables paroles. Étant arrivé à un endroit que je connais, je redouble mes invocations et fais des cris comme si j'étais entré en fureur. Incontinent, six hommes que je fais tenir dans la caverne jettent des flammes de pois résine devant, à droite et à gauche de nous. Et à travers les flammes, je fais voir à mon curieux un grand bouc chargé de grosses chaînes en fer peintes de vermillon, comme si elles étaient enflammées. Et à droite et à gauche, il y a deux gros mâtins à qui on a mis la tête dans de longs instruments de bois, large par le haut et fort étroit par le bout. À mesure que ces hommes les piquent, ils hurlent tant qu'ils peuvent, et ce hurlement retentit de telle sorte dans les instruments où ils ont la tête, qu'il en sort un bruit si épouvantable dans cette caverne, que certes les cheveux m'en dressent à moi-même d'horreur, quoique je sache bien ce que c'est. Le bouc que j'ai dressé comme il vient fait de son côté enrobant ses chaînes, en branlant ses cornes, et joue si bien son personnage qu'il n'y a personne qui ne crût que ce fût un diable. Et mes six hommes, que j'ai fort bien instruits, sont aussi chargés de chaînes rouges et vêtus comme des funeries. Il n'y a point là-dedans d'autre lumière que celle qu'ils font par intervalle avec du poids résine. Et deux d'entre eux, après avoir fait extrêmement les diables, viennent tourmenter mon misérable curieux avec de longs sacs de toile remplis de sable, dont ils le battent tant par tout le corps que je suis peu après contraint de les traîner dehors de la caverne à demi-mort. Alors, comme il a un peu repris ses esprits, je lui dis que c'est une dangereuse et inutile curiosité de vouloir voir le diable, et je le prie de n'avoir plus ce désir, comme je vous assure qu'il n'en a point qu'il ait après avoir été battu en diable et demi. L'autre magicien, nommé Ruggieri, Florentin de Nation, était abbé de Sainte-Mahé et avait la réputation d'empoisonneur. Il demeurait chez un maréchal de France. Quatre jours après la mort de César, il fut, dit-on, assailli par le diable, avec un tintamarre effroyable et étranglé pendant la nuit. Toutes ces absurdités étaient reçues chez les courtisans et chez les bourgeois de Paris comme des vérités incontestables.